Dans la préparation d'une controverse, cet élément stratégique exigera environ 15 minutes de travail. La table d'état-major. L'objet et la forme du débat. L'une des pires choses qui puissent vous arriver est que votre adversaire montre à ceux qui vous écoutent que vous vous êtes trompé de débat. S'il a raison, vous avez perdu. Admettons que la controverse porte sur le sujet suivant. Faut-il continuer à enseigner Aristote sachant qu'il a justifié l'esclavage? Si vous argumentez contre l'esclavage, vous avez déplacé le centre de gravité de la controverse et vous n'allez pas tarder à entendre la salle murmurer et votre adversaire jubiler. Vous avancez dans une fausse direction et votre adversaire prendra à témoin le public que le débat ne consiste pas à savoir si l'on est pour ou contre l'esclavage. Tout le monde, dira-t-il, est évidemment bouleversé, anéanti devant cette pratique et les théories qui l'ont justifiée. Mais à savoir si l'on peut, oui ou non, continuer à enseigner Aristote alors même que sa doctrine politique, économique et morale intègre la justification de l'esclavage. L'autre danger est que vous ne vous accordiez jamais aux attentes de l'organisateur du débat et du public. Vous risquez de ne jamais avoir l'occasion de développer votre argumentaire et d'utiliser vos leviers comme vous le souhaitiez. Si votre adversaire maîtrise la forme du débat et vous, non, vous avez perdu. Admettons que l'organisateur du débat attende de chacun un flux rapide d'arguments et de contre-arguments alors que vous aviez prévu de présenter votre thèse sans interférence, durant 10 minutes, avec une belle introduction, un long développement et une magnifique conclusion. Que va-t-il se passer ? Vous serez constamment interrompu, donc vous allez vous agacer et vous serez incapable de l'emporter. 1. L'objet du débat. Commencez par définir de façon sûre l'objet précis de la controverse. Le sujet donné peut en cacher un autre et vous devez être certain d'avoir compris ce que l'on attend de vous et de votre adversaire. Les anciens rhéteurs, Aristote le premier, dissociait 3 types d'enjeux et par conséquent 3 façons de concevoir les discours antagonistes. Le débat peut consister à opposer des discours délibératifs, c'est-à-dire à confronter des thèses, pour ou contre, à propos d'une question, par exemple « la guerre est-elle une nécessité ?» ou d'une décision à prendre, que ce soit une réforme législative, le choix d'un dirigeant, la réorganisation d'une entreprise, la refonte d'un projet éducatif, etc. Le débat peut consister à opposer des discours judiciaires, c'est-à-dire à confronter 2 opinions antagonistes sur un jugement à rendre. L'accusé est-il coupable ou innocent ? Le débat peut consister à produire des discours épidictiques, c'est-à-dire à écrire ou déclamer, souvent à l'occasion d'une commémoration, la louange ou la critique d'une personne, d'une institution, d'un événement, d'un pays, d'un lieu, d'une œuvre, etc. Le plus souvent, il s'agit d'un discours qui n'appelle ni contradicteur, ni réplique. Par exemple, Versailles, un bijou d'architecture. Staline, le totalitarisme incarné. Mais on peut aussi transformer le style épidictique en débat, par exemple, la conquête de Mars est une monstruosité. VS, la conquête de Mars est une aventure inspirante. Le même sujet peut donner lieu à 3 types de discours différents. La Coupe du monde de football qui s'est jouée au Qatar en 2022 a suscité, quelques semaines avant la cérémonie d'ouverture, de violentes controverses. L'enjeu reposait sur le traitement abominable qui a été réservé aux ouvriers immigrés chargés des chantiers et sur le principe même de construire en plein désert des stades climatisés dont on peine à voir à quoi ils pourront servir par la suite. Selon la logique retenue, ce drame peut donner lieu à 3 débats voisins, mais différents. 1. Style délibératif. Fallait-il boycotter la Coupe du Monde et faut-il, à l'avenir, boycotter les grandes compétitions sportives de ce type ? 2. Style judiciaire. Faut-il condamner la FIFA et le Supreme Committee for Delivery and Legacy à réparer financièrement les préjudices causés aux victimes des chantiers et ou les préjudices causés à l'environnement? 3. Style épidictique, les supporters sont des complices du drame qatari. La distinction entre ces trois types de débats doit vous conduire à bien identifier le registre qui sera le vôtre et, au besoin, à clarifier les attendus du débat. Votre sérénité et votre note, si notation il y a, en dépend. Au-delà du type de débat, il y a la question elle-même et ses sous-entendus éventuels. L'une de mes filles, à l'université, s'est trouvée amenée à participer au débat suivant, pour ou contre le travail des enfants. Le sort l'a désignée pour défendre le travail des enfants. Mauvaise pioche. Outre que le sujet est piégé, quelle jeune Française du XXIe siècle ira argumenter en faveur du travail des enfants? Le problème pour ma fille était de savoir précisément ce que sa professeure entendait par « pour ou contre le travail des enfants ». En d'autres mots, quel était l'objet précis du débat et quelle était la thèse qu'elle devait défendre? Deux grandes options s'offraient à elle. 1. Pour ou contre le travail dissimulé des enfants en France malgré leur droit fondamental à l'instruction. 2. Pour ou contre le travail des enfants dans les pays où l'économie de survie conduit les parents à enrôler leurs enfants pour travailler au champ ou tenir le commerce familial. Selon ce que la professeure avait en tête, le centre de gravité du débat variait du tout au tout. L'urgence était donc de savoir précisément pour tous les contradicteurs ce que la professeure attendait vraiment de ce débat. En cas de doute sur l'objet du débat, il faut à tout prix obtenir des éclaircissements. Partez toujours de l'idée que, peut-être, ces attendus ne sont pas forcément clairs pour celui qui l'a proposé. En exigeant des précisions, vous lui permettez à lui-même de faire la clarté sur ce qu'il attend des contradicteurs. Ce n'est que lorsque l'objet précis de la controverse a été défini de façon sûre que vous pouvez placer sur votre table d'état-major virtuel la thèse précise que vous avez à défendre. 2. La forme du débat. Ensuite, vous devez comprendre avec précision la façon dont le débat va se dérouler. Ce qui est toujours plus facile lorsqu'on n'est pas le premier à entrer en lice. Les options sont en effet très diverses. On peut vous demander de produire un texte écrit en réponse à une thèse développée par quelqu'un d'autre. Un militant, un philosophe, votre professeur. Ici, le débat va vous permettre de répliquer à un discours que vous connaissez et que vous avez le temps d'analyser. On peut vous demander de prononcer une réplique orale à une thèse que l'animateur vient de présenter. Ici, le débat va vous conduire, face à un discours qui vient d'être prononcé, à contredire instantanément votre interlocuteur, donc à l'écouter, à trouver la faille, à organiser et présenter votre réponse. On peut vous demander de produire votre thèse sous forme d'un texte écrit pendant qu'un adversaire produira un texte écrit de même nature sur la thèse inverse. Ici, le débat consiste à offrir en face à face deux argumentaires sur le même sujet, chacun des auteurs écrivant son discours à l'aveugle, c'est-à-dire sans connaître la stratégie de l'autre auteur. On peut vous demander sur un sujet donné de préparer une thèse, tandis que votre adversaire prépare la thèse opposée sans concertation d'aucune sorte, puis de présenter les deux thèses, tour à tour, sous forme orale et sans réplique. Ici, le débat offre en face à face deux argumentaires opposés sur le même sujet à l'oral. La différence avec le type de débat précédent, c'est la forme. Ici, on ne vous demande pas de fournir un texte écrit, mais de parler, de déclamer.